L'Odyssée d'un voleur de pommes de Moïse Rosenbaumas, autobiographie d'un juif lituanien né en 1922, traduite du yiddish par la fille de l'auteur, est un témoignage sur la réalité foisonnante du monde juif d'Europe de l'Est avant 1945. C'est aussi un document sur l'armée rouge et le système stalinien vécu de l'intérieur. Le texte, écrit en yiddish, a d'abord été traduit par Moïse Rosenbaumas lui-même, puis a été repris par sa fille Isabelle au fil d'un dialogue qui a parfois étoffé le récit initial. Né en 1922 dans une bourgade de Lituanie, Moïse Rosenbaumas raconte la vie de cette société pauvre et laborieuse à la veille de sa destruction. L'auteur évoque les métiers qui avaient à leur cours, les plats de misère et les jours de fête, le climat rude et les jeux d'enfants, glisser sur le lac glacé avec un seul patin et voler des pommes dans les vergers les plus difficiles d'accès. Tandis que le père de Moïse abandonne sa famille après une faillite causée par la crise mondiale, le petit garçon commence à travailler à l'âge de 10 ans, puis devient tailleur. La guerre éclate et l'adolescent s'enfuit après avoir tenté de convaincre sa mère et ses frères de le suivre. Ils seront tous assassinés avec les autres juifs lituaniens entre juillet et décembre 1941. Au cours de son périple, Moïse est interné avec d'autres Russes dans un kolkhoz d'Ouzbékistan où il subit le travail forcé et la faim. Il parvient à s'extraire de cet enfer et s'engage dans l'armée rouge où il sera éclaireur. Décoré comme soldat, il devient cadre du régime soviétique jusqu'à ce que sa conscience et surtout sa femme l'incitent à sortir de cet enlisement dans le système. En 1957, il rejoint ainsi son père en France qu'il n'avait pas vu depuis près de 30 ans. Moïse s'est éteint le 1er novembre dernier. Isabelle a traduit de nombreux ouvrages du yiddish et encore tout récemment chez Kalman Levy, l'extraordinaire journal de Lai Broschmann.
Kazan est un port sur la Volga avec une population formée d'une forte majorité de Tatars. Ce sont les descendants de la population qui avait au XVIe siècle martyrisé le peuple russe, particulièrement en Crimée et dans d'autres régions de la Grande Russie. Ils n'étaient pas très accueillants et pas du tout aimables. Bien sûr, les peuples mauvais, méchants ou belliqueux n'existent pas de façon absolue et toute généralisation est toujours abusive. Mais compte tenu des circonstances, c'était bel et bien l'impression que nous avions. Il nous était difficile d'avoir une conversation avec les Tatars, car tout le monde ne parlait pas le russe, et ceux qui le parlaient ne voulaient pas nous adresser la parole par hostilité envers les Russes. La ville était construite sur la Volga, le plus long fleuve d'Europe avec ses 3700 km de longueur. Pendant la guerre, la Volga avait une importance stratégique inestimable. La Volga se jette dans la mer Caspienne par un large delta, mais elle est l'artère navigable majeure qui relie la mer Blanche à la mer Baltique par le canal Volga-Baltique et la mer d'Azov à la mer Noire par le canal Volga-Don. Il y a les endroits où le fleuve est si large que l'on ne peut pas voir à l'œil nu l'autre rive. Jadis, les moujiks, les paysans asservis, tiraient les bateaux en chantant les célèbres chants de la Volga, mais à présent les bateaux avaient des moteurs et il ne manquait pas d'embarcations de toutes sortes, canaux, barques que les paysans et les pêcheurs conduisaient au moyen de rames. Tout autour, la nature couverte de forêts et de bosquets était absolument splendide. Dans les forêts, le bois était exploité pour la construction, la fabrication de meubles et la pâte à papier. Les coupes étaient surtout effectuées sur les hauteurs, les troncs étaient ensuite glissés vers le bas jusqu'au fleuve. Là, ils étaient solidement attachés les uns aux autres afin de former une sorte de radeau et à l'aide de rames improvisées, ils étaient dirigés par voie d'eau en direction de la mer Caspienne. Kazan était une ville portuaire équipée de toutes les installations nécessaires à l'embarquement et au débarquement du fret et des passagers qui empruntaient à partir de là les directions les plus variées. Pendant la guerre, Le port bouillonnait comme une véritable marmite. Les marchandises prenaient la route du front, puis au retour, c'étaient les blessés grièvement atteints qui étaient ramenés. En fait, de marchandises, il s'agissait essentiellement d'équipements militaires. Par un beau matin d'été, nous sommes montés sur un navire de fret qui descendait jusqu'à la mer Caspienne. Le voyage durait plusieurs jours. À chaque escale, nous descendions nous promener en ville, puis reprenions un autre bateau. Pour quelle raison errions-nous ainsi et que cherchons-nous au juste? La vérité était tout simplement que nous ne le savions pas. Nous avions l'air de parfaits touristes. Nous ignorions où aller et que faire. Ainsi, par étapes, quittant une embarcation puis remontant dans la suivante, d'une escale à l'autre, je ne me souviens plus de toutes les villes d'escale, nous arrivâmes à Astrakhan. Nous n'y sommes pas restés bien longtemps. Un autre navire de fret, c'était plutôt cela que nous empruntions car il était plus aisé d'y trouver de la place, remontait le fleuve, sans s'arrêter cette fois. Il nous restait encore une petite provision de pain et un peu d'argent. À la descente du bateau à Kazan, il eut une bousculade incroyable, car partout en Russie, ces voyages étaient gratuits. Nous ne pensions pas à avoir l'œil autour de nous et à surveiller notre fortune. Toujours est-il que nous nous aperçûmes trop tard que notre pauvre capital s'était envolé. Nous avions pris l'habitude de partager ce que nous avions et de le cacher sur nous, mais il faut croire que nous étions novices en la matière. Qu'avaient trouvé les voleurs dans nos poches hormis les trous? Sûrement pas grand-chose, mais quoi qu'il en soit, les petites coupures et les pièces nous auraient été bien utiles, car ce peu d'argent nous servait à acheter un légume pour accompagner notre pain. Heureusement, il nous restait encore un peu de pain qui nous permettait de ne pas mourir de faim. Le bon sens et la lucidité nous commandaient de lever la tête pour observer que les feuillages commençaient à tomber et que l'été tirait à sa fin. En Russie, l'automne survient assez tôt. Nous étions vêtus très très légèrement d'une chemise qui tombait en lambeaux à force de lavage. Après réflexion, le plus simple était de prendre la direction des régions où le soleil brûle toute l'année. Cette fois, nous optâmes pour le train comme moyen de locomotion. Les trains étaient littéralement bondés. Les gens étaient entassés les uns sur les autres. Quant aux odeurs, elles vous coupaient le souffle. Un masque à gaz n'aurait pas été superflu. Personne ne disposait de couchettes et rares étaient ceux qui trouvaient des places assises, même par terre. Notre destination était Tachkent. Tachkent se trouve en République d'Ouzbékistan, dont elle est la capitale, à proximité de l'Iran et de l'Afghanistan et tout près de la Chine. Nous avions, comme on peut le voir, encore quelques milliers de kilomètres à parcourir. Après une longue attente, le train finit par démarrer. Il se traînait péniblement, serpentant sur une longueur telle qu'il était impossible d'en apercevoir la tête. Ce n'est qu'après avoir parcouru les premiers kilomètres que nous pensâmes à nous mettre en quête d'un coin où nous poser, serait-ce dans le couloir. Le train continuait à cheminer avec lenteur, s'arrêtant dans toutes les stations où il s'immobilisait longuement. Nous descendions alors pour aller chercher le kipetok, la traditionnelle eau bouillie partout, disponible pour faire du thé ou du café. Les mères s'en servaient pour préparer les biberons de leurs bébés. Quant à nous, cette eau potable nous apportait un immense soulagement et nous réchauffait le ventre. Nous en profitions aussi pour nous laver à l'eau froide. Le voyage s'éternisait parce que les transports ferroviaires s'arrêtaient pour un oui ou pour un non. Personne n'était en mesure de comprendre les mystères de cette progression chaotique. Parfois, le tortillard restait immobilisé pendant des heures sans raison apparente, en rase campagne. En réalité, cela s'expliquait par la priorité accordée au transport militaire. Voyager en train n'était pas une promenade de santé. Non seulement on ignorait sur le moment pourquoi les trains roulaient ainsi, au ralenti, mais on ne savait jamais avec certitude où ils se rendaient. Nous montions dans un wagon en espérant que le convoi prendrait la bonne direction, et nous étions déjà bien contents si le train voulait bien avancer et ne pas demeurer bloqué sur place. Les transports ne manquaient pas, ils circulaient dans toutes les directions imaginables, mais personne n'était capable de dire exactement où ils allaient, et encore moins quand ils parviendraient à destination. Il arrivait ainsi que quelques voitures militaires soient accrochées à la rame et le convoi se dirigeait alors d'abord vers la destination imprévisible où ces voitures devaient être déposées.
По Смоленской дороге леса, 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 По Смоленской дороге столбы. Над дорогой Смоленскою, как твои глаза, две холодных звезды голубых моих судьбы. Над дорогой Смоленскою, как твои глаза, две холодных звезды голубых моих судьбы. По Смоленской дороге метель в лицо, все нас из дому гонят, дела. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо, покороче бы, наверное, дорога мне не легла. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо, покороче бы, наверное, дорога мне не легла. По Смоленской дороге леса. По Смоленской дороге столбы гудят. Над дорогой Смоленскою, как твои глаза, две вечерние звезды голубые глядят. На дорогу Смоленскую, как твои глаза, две вечерние звезды голубые глядят.
Казан изгивен во вен мерсен фун татарн, то занен ди ура никлех, welgehoben in 16. Jahrhundert, ongemacht zores die Russen, überhaupt in Krim und auch in andere Städte. Sie seien nicht sehr sympathisch und sehr schwer mit sie sich zusammenreden. Nicht alle reden Russisch und die, welche reden, will nicht reden. Die Stadt liegt auf der Wolga. Wie ihr wisst, ist die Wolga der längste Teich von Europa mit seinen über 3.200 Kilometer. In anderen Erden ist der Teich so breit, als wenn der See kam mit der Rück dem zweiten Break. Einmal haben die versklavten Musiken geschleppt, die Schiffen mit Strick und gesungen aus der Uchna. Aber jetzt, wenn wir seinen gefahren, sind die Schiffen getrieben geworden mit Motoren. Aber es hat nicht gefällt kleine und größere Schifflech, was die Pöre und die Fischer pflegen bewegen mit den Händen. Warum ist die Natur prächtig, schön, mit viel Wälder und Felder. Von den Wäldern pflegen sie vier Holz mit dem Teich. Sie haben genommen die langen Gletscher, das zusammengebunden und führen zum Kaspischen Jam. Kazan ist eine Hafenstadt. Von dann gehen Schiffe in alle Richtungen. Also gut Passagiere wie Frachtschiffen. In der Milchome-Zeit hat er gekocht wie in einem Kessel. Man hat geführt Schere zum Front und geführt schwere Verwundete vom Front. Ich sage Schere, gewöhnt er, dass es gewöhnt militärische Ausstattungen. Ich habe euch das alles geschrieben, alles beschrieben. Also wie ich wollte sehen, gewöhnt auf dem Schiff. Nein, wir gehen jetzt darauf, offensiv, und es hebt sich an, also. Eins in einem Tag haben wir sich beide heraufgesetzt auf ein Frachtschiff und heraufgefahren bis in Kaspischen Jam. Es redet sich also heraufgefahren. Die Reise haben wir nicht gemacht mit einmal. In jeder Stadt, nur als die Schiff legt sich aufstellen, pflegt mir heraufgehen. Und nachdem nehmen wir ein zweites Schiff. Wollt ihr doch mir fragen, für was? Gewöhnlich, wir haben nicht gemacht kein Tourismus, nur wir haben postet nicht gewusst, wo wir fahren und was wir tun. Ich will doch nicht ausrechnen, alle Städte von Kazan bis in Kaspischen Jam. Aber ich denke, als wir seinen vielmal Arop und Karikarov auf andere Schiffen. Wir sind gekommen in Astrakhan, Da sind wir nicht geblieben lang. Wir haben genommen ein anderes Frachtschiff und gefahren zurück bis Kazan. Wir haben noch gehabt eine Reserve von Breit und ein bisschen Geld. Ein Abgängig von der Schiff ist gewesen, als das Stupen ist, weil umetum hat man gekannt vor einem Sicht. Wir haben nicht bewiesen, sich herumzugucken, wie man hat bei uns eine Reise gegangen mit unserem ganzen Vermögen. Weil eine Hälfte ist gewesen bei meinem Haber und die zweite Hälfte bei mir. Was können Sie denn finden bei eurem Leid? In Kessene, nur eine Lächerdicke. Aber die paar Großen wollten uns zu nutz gekommen. Nur gut, was uns ist geblieben breit. Der Sommer ist gegangen zum Ende, weil in Russland kommt der Herbst sehr früh und wir seinen Gewinn sehr leicht angetan. Haben wir sich gesagt, als wir wollen fahren, dorten, wo es ist warmer. Das Mal haben wir genommen eine Passagierenbahn und ein wenig ist gewinn gepackt von Menschen und gestunken ganz fein. Keiner ist nicht gelegen oder gesessen auf der Bank oder auf der Erde. Wir haben beschlossen, als wir wollen fahren bis das Kind. Das ist in Usbekistan und nicht weit von Afghanistan und sehr nahe von China. Wir haben gehabt zu machen 8000 Kilometer. Die Bahn hat sich geschleppt, wie es lang. Also lang ist sie gewesen mit den Waggons. Nur als man nicht gefahren, hat sich jeder einer gefunden in seinen Winkel, wo sich zum Weg setzen. Der Bahn hat sich aufgestellt auf jeder Stanze. Vielleicht mir herabgehen und nehmen gekochte heiße Wasser. Das ist gewesen auf jeder Stanze. Man pflegt das Rufen auf Russisch Kipitok, Stammwasser, aber gekochte. Für die Menschen ist das gewesen eine große Hilfe. Ich habe mir sich herumgewaschen mit kaltem Wasser. Die Reise hat gedauert sehr lang, weil der Bahn hat sich aufgestellt ohne Verwurz und bleiben stehen so lang. Weil die militärischen Zügen haben gehabt die Wirklichkeit. Der Fahren mit den Bahnen ist nicht gewöhnt von den leichten Sachen, weil man hat kein Mal nicht gewusst genau, wo der Bahn geht. Man pflegt sich hereinsetzen und fahren. Nur als sie ist gewöhnt die gute Richtung. Als man fährt, sieht man nicht auf den Ort. Bahnen hat nicht gefehlt. Sie sind gegangen in alle Richtungen. Aber genau hat keiner nicht gewusst, wo sie gehen. Es schlägt passieren, als zur zivilen Bahn hat man zugezippt, etliche militärische Waggonen. Damals ist der Bahn gefahren, wo man hat gedacht, führen die militärische Waggonen.
Ich hab sich verliebt in Adinga, das Scheine. Und ich kenn zu ihm nicht gehen.